Et ceux qui nous visitent aussi, comme je l'ai dit pour la première fois, mais j'ai la joie, l'immense joie. Et cette semaine, quand je priais pour vous et pour ces moments, vous savez, je pense être quelqu'un de méticuleux, quelqu'un qui veut toujours bien faire les choses et quelqu'un qui poursuit l'excellence. Et parce que notre Église, dans notre culture aussi, c'est l'excellence. Parce que quand Dieu fait, il le fait bien. Hein? Lorsque Dieu sauve, il ne te sauve pas à moitié, il te fait bien. Il le fait bien. Lorsque Dieu te bénit, il ne le fait pas à moitié, il le fait bien. Dieu est un Dieu de la prospérité, Dieu est un Dieu d'abondance, il le fait bien. Donc, ce matin, n'accepte pas quelque chose de partiel. N'accepte pas juste, vous savez, une goutte. N'accepte pas juste une sensation, un sentiment de bien-être. Non, accepte que Dieu veut te rendre heureux, heureuse. Donc, je disais tout à l'heure que je suis quelqu'un qui poursuit l'excellence. Mais alors que j'aime bien travailler mes messages au niveau des titres, au niveau des punchlines, ce qu'on appelle, au niveau d'être clair et avoir la clarté dans mes idées afin que je puisse vous les communiquer de manière plus claire. Parce que, comme le disait, je pense, Lavoisier, tout ce qui se dit clairement, non. Tout ce qui s'énonce, non, il y a quelque chose avant. Bon, c'est bon. C'est Lavoisier qui l'a dit. Tout ce qui s'énonce clairement, se dit clairement, et les mots pour l'arrivent arrivent aisément. Mais il y a un mot au début. Cherche-moi, Olivier, demande à 30 ans, GPT, comme disait. Tout ce qui, il y a quelque chose avant, et s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, je travaille tout le temps là pour que ça soit bien conçu, pour que ça soit bien prononcé et que ça soit impactant. Mais alors que je pensais à ça, Dieu me dit, « Ok, mon fils, mais j'aimerais que tu libères plus que ce qui se conçoit bien là. J'aimerais que tu libères mon cœur. » Parce que j'aimerais te dire dans l'introduction, Dieu t'aime. Et il ne s'agit pas d'une prestation, il ne s'agit pas d'un serment, il ne s'agit pas que tu sois sermonné. Mais il s'agit que tu puisses rencontrer et que tu puisses goûter à l'amour de Dieu. L'amour qui touche, l'amour qui transforme, l'amour qui bénit et l'amour qui impacte. On peut vivre tellement de choses et on peut être béni au niveau de notre santé. On peut être béni au niveau de notre famille. On peut être béni au niveau de notre carrière. Mais pour autant, on est béni dans tous ces domaines, mais pour autant, on connaît et on vit un vide à l'intérieur. Est-ce que ça s'est déjà arrivé à quelqu'un de vivre cet état où il y a tellement de belles choses qui nous arrivent autour? Et on entend même des personnes nous dire, mais tu as tout pour être heureux. Tu as tout pour être heureuse. Mais comment ça se fait que l'humanité, et on rencontre des gens au travail, on rencontre des gens autour de nous, et notre voisin, et peut-être même vous-même, vous êtes là. Et tu te dis autour, mais j'ai tellement tout pour être heureux, mais il y a un vide, il y a quelque chose dans mon cœur, il y a quelque chose qui me manque. Et pire encore, pour certains, vous avez entendu parler de Jésus. Et pour certains, vous chantez ces chants, mais il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Tu n'as pas été créé pour te chercher toute ta vie et sans te trouver. Et ce matin, je vais t'expliquer par la grâce et en libérant le cœur de Dieu pour ta vie, ce que tu as été créé, tu as été façonné réellement pour appartenir à quelque chose, on va le voir, d'inébranlable. Je dis bien inébranlable. Parce que cette vie, et peut-être même cette semaine, quelqu'un a entendu une nouvelle qui a ébranlé. Tu te lèves le matin, tu ne t'attends pas, quelque chose t'ébranle, quelque chose te secoue. Mais pourtant, tu peux connaître une personne qui est inébranlable et tu peux faire partie d'une réalité inébranlable. Quand je parle d'une réalité, je parle par exemple de l'Église. On me dit, mais comment ça se fait que l'Église soit inébranlable? Alors, laisse-moi bien te dire, quand je parle de l'Église, je ne pense pas à ce bâtiment. Et je ne pense pas au bâtiment de manière générale. Vous savez, l'Église, comme le disait, je crois, Fabien, c'est une maison, c'est une famille. La famille Tini, ce n'est pas d'abord une adresse. La famille Ganga, ce n'est pas d'abord une adresse. 142 boulevard des Amaris. Ne venez pas sonner tout le temps chez moi. Je n'ai pas donné le code postal. La famille Ganga, ce n'est pas une adresse, mais elle est à une adresse. Vous comprenez? L'église, ce n'est pas une adresse géographique. L'église, c'est une réalité spirituelle. C'est d'abord une réalité. Dieu, et le but de Dieu, c'est qu'en te créant, que tu fasses partie, en connaissant Jésus, et Dieu a toujours fait le lien. Tu connais Jésus et tu es automatiquement inclus et tu es automatiquement parti d'une famille spirituelle, d'une famille relationnelle qui fait en sorte que tu puisses commencer à goûter à l'inébranlable de Dieu. On va le découvrir rapidement. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, parce que Jésus avait des disciples, des personnes qui le suivaient, qu'il formait. Il va lui dire, « Qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Même si vous ne connaissez pas tous les personnages, ne vous inquiétez pas. « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. » Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Il y a les uns, les autres. Toujours, tout le monde a une opinion sur Jésus. On a entendu des choses sur Jésus. Et Jésus va leur dire, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus, va répondre, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'a jamais dit réellement comme dans ces termes-là. Mais lui, l'un des disciples qui suivait Jésus, va dire, non, non, mais moi, je ne m'arrête pas à ce qu'on a dit. Les uns disent quelque chose, les autres disent autre chose. Mais moi-même, au fond de moi, il y a quelque chose que j'ai capté, il y a quelque chose que j'ai réalisé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus, waouh, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Arrêtez-vous là, juste pour comprendre ce texte. On va continuer, mais comprenez-moi bien. Jésus est en train de dire quelque chose d'extraordinaire et qui nous concerne. On connaît des choses sur Jésus, on a entendu parler. Les uns disent que Jésus, c'est le dernier prophète. Les autres disent, ce n'est pas le Fils de Dieu. Les autres disent, mais Jésus, de toute façon, c'est un personnage historique. Je ne suis pas là pour vous faire une démonstration historique, bien que Jésus ait existé. Je ne suis pas là pour vous dire, de manière humaine, qui est Jésus. Je suis là, je vous ai dit, pour vous parler du cœur du Père. Et pendant que je parlais du cœur, quelque chose dans votre esprit va révéler Jésus. C'est pour ça que Jésus va dire, ce n'est ni la chair et le sang, c'est-à-dire, ce ne sont pas les communs des mortels. Mais peut-être que tu es là parce que quelqu'un même t'a parlé de Jésus, c'est très bien. Et je ne suis pas là pour un bourrage de crâne. Je ne suis pas là pour un endoctrinement parce que ce n'est pas la chair et le sang. En d'autres termes, ce n'est pas avec un langage humain, ce n'est pas avec une compréhension humaine qu'on reçoit Jésus. Mais Jésus va dire, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est-à-dire, la révélation vient quand quelque chose est voilé et dévoilé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ton esprit, dans ton être intérieur qui va faire lever le voile et dire, waouh ! En fait, Jésus, ce n'est pas ce que les autres forcément te disent. Ils peuvent te dire des bonnes choses. Mais Jésus, c'est ce que d'abord le Père qui est dans les cieux révèle à l'intérieur de toi. Et toi, tu te dis, mais au fond de moi, je sens et je suis appelé à suivre ce Jésus. Et ça, c'est la révélation de l'Esprit. Amen. Ne cherche pas à comprendre Jésus en alignant ce que les uns disent, ce que les autres disent. Mais cherche, et on connaît Jésus, par la révélation. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Et moi, va dire Jésus, il va s'adresser à Pierre. Je te le dis, tu es Pierre, et on en parlera tout à l'heure, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus passe comme s'il parlait d'autre chose. Pierre vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ, ça veut dire oint. Tu es oint par Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, waouh, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Et quand mon Père t'a révélé ça, certainement, à partir de toi, et on expliquera tout à l'heure, je bâtirai mon église. Jésus fait le lien fort entre le fait que Pierre vient de reconnaître Jésus comme le Messie et le lien avec l'église. Et c'est ce que je vous ai dit.
Et Dieu a toujours fait comme ça. Dieu a placé, on nous a parlé d'Adam et Ève, Dieu a placé Adam et Ève dans un environnement. Chaque fois que Dieu annonce quelque chose d'important, il place cette chose, cette vérité dans un environnement. Et Dieu a toujours placé l'homme dans l'environnement. Tu ne dois jamais déconnecter l'Église de la révélation de Jésus. C'est pourquoi dans ce texte, il nous est dit, je bâtirai mon Église. En fait, quand Dieu veut bâtir un homme, il bâtit une Église. Quand Dieu veut bâtir ta vie, il te met dans une Église qui va aussi te bâtir. Et il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et on va en parler si le temps me le permet. Mais l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu es dans une église, avec la prière, avec la parole, avec la communion, ce qu'on appelle la communion fraternelle, avec des hommes et des femmes qui t'entourent, même la mort de l'enfer ne peut rien contre toi. C'est-à-dire on peut prier pour toi et tu es guéri. On peut débloquer des choses. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et plusieurs parmi nous, nous l'avons expérimenté. Il va dire même, je te donnerai les clés du royaume. Wow, on va en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais juste dire, toujours dans ma petite introduction. Si tu découvres qui est Jésus, tu vas découvrir qui tu es. Parce que le vide dont je te parlais de tout à l'heure, c'est un vide qui dit, mais qui je suis? Tu peux dire, qu'est-ce que j'ai? Tu as répondu à cette question, qu'est-ce que j'ai? Des possessions, et peut-être même, qu'est-ce que je n'ai pas? Mais est-ce que tu as réfléchi à cette question? Qui tu es? Qui tu es, ça c'est bien, est supérieur à ce que tu as. Parce que ce que tu es va toujours déterminer comment tu vas utiliser ce que tu as. Si tu ne sais pas qui tu es, tu peux avoir plein de choses, mais ces choses que tu as, tu as mal les utiliser. C'est pourquoi c'est important de connaître et d'être conscient de ta véritable identité. Qui tu es? Et pour certains, vous vous définissez comme instable. Pour certains, vous vous définissez comme, je suis quelqu'un d'instable. Je suis quelqu'un de pas affermi. Je suis perdu. J'entends depuis tout à l'heure. Je suis perdu. Je ne sais plus où aller. Je suis perdu. Et on va voir en fait qu'on peut passer d'une vie marquée par les doutes, marquée par les blessures, marquée par le manque à une vie où notre identité, notre je suis est enraciné dans je suis le je suis de Dieu. Et lorsque notre identité, c'est-à-dire qui je suis, est enracinée dans qui Jésus est, alors on passe d'une vie instable à une vie stable, d'une vie inébranlable à une vie inébranlable. Parce que Dieu t'a créé pour que ton présent et ton futur soient inébranlables. Donc, c'est normal que tu n'aimes pas le côté inébranlable chez toi. Parce que tu n'as pas été créé comme ça, tu n'as pas été designé. En fait, tu es mal à l'aise. C'est normal, je te rassure. C'est normal que si tu as des problèmes financiers, que tu sois mal à l'aise avec ça. Personne ne se réveille en disant, j'ai des problèmes financiers. Ah, j'aime ça. J'aime être dans la galère. J'aime être en mauvaise santé. Maladie vient. Non! Parce que tout ton corps, tout ton esprit, toutes tes pensées disent « Je suis créé pour être en bonne santé. Je suis créé pour ne pas avoir de problèmes de santé. Je suis créé pour avoir un bon travail. Je suis créé pour être bien relationnellement. » Tu as été créé, tu as été designé pour ça. En fait, la recherche des bonnes choses avec les bonnes motivations est tout simplement ta quête spirituelle de Dieu. Parce que Dieu a créé toutes choses bonnes. Et quand il a créé, il a dit « ça c'est bon ». En fait, quand tu vois quelque chose de bon et tu sais que c'est bon et que c'est sain, c'est ton toi intérieur qui s'exprime. Le « tu es » de Dieu. Et on va le voir en fait. On a parlé d'un Pierre qui va dire, qui va reconnaître, « Ah Elvire, heureux de te revoir. » On va voir Pierre qui va reconnaître Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand on regarde la vie de Pierre, on dit « Mais comment ?» Comment il est passé à cette révélation en sachant que c'était quelqu'un justement qui était instable, inconstant, qui était colérique? Et je vais te montrer en fait ce que Dieu a fait de Pierre Il veut et peut le faire aussi avec toi. Je sais, parce que je me suis préparé, qu'au milieu de nous, il y a des mentalités instables. Je sais que tu peux être fort à l'extérieur, que peut-être plein de choses t'ont réussi, mais à l'intérieur de toi, complètement détruit et détruite, et tu pleures et tu veux une autre vie. Je le sais, mais je veux te montrer que comme Jésus l'a fait pour Pierre, et quand Pierre est devenu un autre homme, tu peux devenir un autre homme, une autre femme, parce que Dieu aime. En fait, l'ADN de Dieu, c'est de prendre le meilleur et de prendre le pire et de le transformer en meilleur. Même la création de l'homme. Vous savez, on vient d'où? Comment Dieu nous a créés? Tu t'es déjà posé cette question? De quoi? De la terre. Qui peut miser sur de la poussière? Qui peut? C'est-à-dire que chaque fois que tu te regardes dans la glace, tu dis, et même il y a dans ces films, poussière, tu retourneras poussière. Vous avez entendu ça? En fait, on est un tas de poussière. Je sais, vous avez du mal à le voir. Quand vous me regardez, vous dites, non, mais pas lui. Je sais, mais ne, pas moi. OK, pas moi, mais vous. C'est très compliqué. Moi, quand je me regarde, c'est compliqué de dire que ce beau gosse-là était poussière. Mais pourtant, le beau gosse que vous voyez là, 1m80, il vient de la poussière. Tu viens... Tu as beau te faire du toilettage sur le visage. D'accord? Tu as beau faire du ravalement de façade. Tu viens de la poussière. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu prend de la boue. Oh! Prend de la boue. Et il en fait un chef-d'œuvre. Et David, un homme dans la parole, va dire, je te loue, et moi je me le dis souvent, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est vrai. Mais toi, peut-être tu regardes juste tes défauts et ceux qui sont autour de toi mettent l'en face sur ce qui ne va pas et tu te dis, non, mais qui je suis, je suis. Mais Dieu de la poussière crée l'homme. Et la différence c'est quoi? Comment Dieu passe de la poussière à un être vivant? La Bible dit, il a envoyé son souffle. Cet esprit dont je te parle depuis tout à l'heure, quand Dieu envoie sur la boue, peu importe la laideur même de ton péché, peu importe la laideur de ton passé, peu importe la laideur de ce que tu fais et de ce que tu vis, quand l'esprit de Dieu vient, du pire, il le transforme en meilleur. Tu peux acclamer le roi des rois et il va le faire dans ta vie. Et Dieu va le faire dans la vie de Pierre. Pierre, quand Jésus dit « Tu es Pierre », le mot utilisé, c'est « Pétros ». On va faire un peu de grec. Mais il n'y a que deux mots ce matin pour grec. D'accord? Deux mots, ça va aller? Pétros, dis avec moi « Pétros ». Donc, Pétros, quand Jésus dit « Tu es Pierre », il dit « Tu es Pétros ». Pétros, c'est morceau fragmenté. Pierre. Tiens, ça me rappelle un peu poussière. Vous savez, ces débris-là. Il dit, tu es Pétros. Tu es fragmenté. Tu es un petit... une pierrette pour Pierre. Hein? Enfin, je crée. Tu es un fragment de roche. Quand tu regardes ta vie professionnelle, rien n'est stable. Je regarde en l'air parce qu'il y en a beaucoup. Quand tu regardes ta vie amoureuse... Rien n'est stable. Tu es ce fragment complètement désintégré. Mais tu es ce pierre-là, tu es ce Pétros. Mais à partir de ce Pétros, il va dire, tu es aussi, je ferai de toi un Pietra. Et à partir de ce Pietra, dans cette deuxième pierre, hein, il y a deux pierres. Tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. C'est quoi la différence entre Pétros et Pétra? Pétros, j'ai dit fragment, rocher, petite pierre, pierrette. Hein, on dit pierrette, comme ça tout le monde comprend, d'accord? Tu es pierrette. Et sur ce pierre, comment tu passes de pierrette à pierre? Bon, s'il y a pierrette dans la salle, hein, pardonnez-moi. Comment tu passes de pierrette à pierre? Comment tu passes de Pétros à Pétra? Pourquoi? Parce que Pétra, ça signifie rocher massif. Ça signifie... Ouais, c'est ça. Ça signifie quelque chose d'inébranlable. Comment tu passes de Petros ébranlable à Petra inébranlable? Tu es pierrette et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais si vous vous souvenez de ce que j'ai lu, on passe de Petros à Petra en réalisant ce que Pierre a réalisé et en confessant ce que Pierre a confessé. C'était en lui et il n'a pas écouté ce que les gens disaient. Il n'a pas regardé TikTok. Il n'a pas regardé Facebook. Il ne s'est pas arrêté à ce que peut-être même son environnement et peut-être même son passé et peut-être même ce qu'il a pu dire de lui-même avant. Il a regardé et il a écouté la voix de l'esprit à l'intérieur qui disait, mais ne vois-tu pas les indices ceci, les autres disent ça. Mais lui, ce n'est pas n'importe qui. Lui, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et j'aimerais te dire, les jours où j'ai dit que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, c'est lui le Christ, c'est lui loin, c'est lui le Fils du Dieu vivant, je suis passé d'une pierrette à un Petra. Je suis passé de Petros à Petra. Je suis passé d'une vie fragmentée, d'une vie complètement en ruine à une vie stable, à un rocher massif. Tu peux devenir inébranlable. Tu peux devenir inébranlable. Parce que juste, tu reconnais qu'il est le Christ, il est loin, le Fils du Dieu vivant. Et loin va dire lui-même, l'Esprit de Dieu m'a oint. Je suis ce Christ pour proclamer aux captifs la délivrance, pour publier une année de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es enchaîné, emprisonné par toutes sortes de raisonnements, par toutes sortes de pensées. Oh, tu n'arrives même pas à dormir. Peut-être même qu'il te faut un cachet chaque nuit pour dormir. Mais tu te dis, mais ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est l'insomnie. Ma vie, c'est l'irrégularité. Mais il faut que tu passes de ce Petros à Petra. Et ça, c'est Jésus-Christ qui peut le faire. C'est Jésus-Christ qui peut te le donner. Parce que la transformation ne vient pas de ton effort, de tes efforts. La transformation va venir de la révélation de qui Jésus est. Cherche à connaître Jésus. Tout commence par là. Quel est ton défi? Dis-moi un défi. Connais Jésus. Quel est ton défi? Cite-moi un défi. Peut-être pas pour toi, parce que toi, tout va bien. Procrastination. Commence par Jésus. Quel défi encore on peut rencontrer? Vous n'avez pas de défi, hein? Les finances. Commence par Jésus. Jésus va t'apprendre à bien gérer. La santé. Commence par Jésus. Un autre défi. Le travail. Commence par Jésus. Tout commence par Jésus. Tout commence par Jésus. Tu ne peux pas bâtir une vie stable sur une connaissance superficielle de Jésus. Tu ne peux pas bâtir une vie stable si tu t'arrêtes sur ce que les uns et les autres disent de Jésus. Tu ne peux pas bâtir une vie stable, écoute-moi bien, même lorsque les circonstances de ta vie semblent te donner une idée de qui est Jésus. Vous savez ce genre de femme, si Dieu existe, pourquoi il y a la souffrance? En fait, on base la connaissance de Jésus sur des expériences qu'on a passées. Et sur ce que les hommes font de mal. Les uns, quand je vois les uns vivre, donc Jésus n'existe pas, ou Jésus n'est pas Seigneur. Lorsque je vois la souffrance des uns, je me dis que Jésus n'est pas Seigneur. Tu bases l'expérience et la divinité de Jésus sur le fait que les uns souffrent de ce que l'homme est méchant. En fait, il y en a, regardez la folie de cette pensée. Il y en a qui nient. Il y en a, c'est pas ça se dit, hein, mais ça se dit quoi. Ça fait bien en parlant. Il y en a qui nient l'existence de Jésus en élevant l'existence du diable. Hein? C'est-à-dire, pourquoi il y a la souffrance et en même temps que Dieu existe? Donc, il y a la souffrance, le diable agit, mais donc Dieu n'existe pas. Alors que quand tu comprends que Jésus-Christ est le Fils, le Christ du Dieu vivant, tu comprends que la mort existe, mais Dieu a donné les clés à un homme qui s'appelle Jésus pour vaincre la mort. Et que si l'humanité reçoit Jésus, l'humanité reçoit celui qui renverse la souffrance. Tu reçois Jésus, tu reçois l'inébranlable. Tu reçois Jésus, tu reçois la puissance de résurrection. Tu reçois Jésus, tu reçois la puissance qui va vaincre la mort. Parce que ta véritable identité est cachée dans la révélation de Jésus. Tu ne sauras jamais qui tu es tant que tu ne sauras pas qui Jésus est. En fait, tu ne sauras jamais qui tu es tant que tu n'accepteras pas la révélation qui est en train de venir dans ton esprit là, en ce moment même, de Jésus qui t'aime, de Jésus qui te veut, de Jésus qui t'a toujours cherché, de Jésus qui t'a toujours poursuivi. Ce Jésus, au fond de toi, au fond de toi, j'insiste à Dieu parce que c'est dans ton esprit. Quand je fais comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a autour, c'est au fond de toi. C'est ton esprit qui te dit qui est Jésus. Et ce Jésus, nous avons dit qu'il peut te changer de Pétros en Pétra, mais ce Jésus se déplace, il vient de là où tu es. Il vient te chercher là où tu es. On a parlé de ce Pierre. Comment ça se fait que Pierre a eu cette révélation? Ce même Pierre, à un moment donné, va vivre une situation extraordinaire. Enfin, extraordinaire, parce qu'on connaît la suite. Ce même Pierre, à un moment donné, se retrouve dans la tempête. Dans la tempête. On va lire rapidement. Alors qu'ils sont dans la tempête, Matthieu 14. Pierre lui répondit. Ils sont dans la tempête et ils voient un homme comme un fantôme. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus va dire, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, le vent cessa. J'ai pensé à ce texte et on le lit rapidement, mais comprenez bien. Je vais essayer d'imaginer ça rapidement. On va demander le beau gosse. Allez, Yann, viens. Acclamez le beau gosse, Yann. Toi, tu t'es fait beau, tu ne savais pas pourquoi tu t'es fait beau. Je te montre. Bon, regardez. Regardez comme elle est, cette merveilleuse créature. Regardez. Regardez. Je touche les muscles, les pecs. OK, OK. Les filles, redescendez, écoutez-moi. Donc, imaginons qu'il y a le vent, c'est Pierre, il est dans la barque. Et je m'éloigne, désolé pour la caméra. Mais Yann, donc, c'est Pierre. Il fait sombre. Il ne comprend pas, il y a la tempête, et Jésus est là. Et je lui dis, oui, c'est bien moi, Jésus. Yann, donc Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus va dire à Pierre, viens. Donc Yann sort de la barque. Mais voilà, reste, il sort, il commence à avancer, avance-toi juste là, et il marche sur les eaux, arrête-toi là. Et quand il commence à marcher sur les eaux, à un moment donné, il a peur. Et la Bible dit quoi? Il a commencé à s'en foncer. Et quand il s'enfonce, de là où il est, il dit, sauve-moi! Et la Bible dit que Jésus vient. Comment Jésus a fait de là à là et l'a tiré? Comprenez ce que je dis? Yann est en train de venir vers moi. Pendant qu'il vient vers moi, il s'écroule, il a peur, il s'enfonce. Et pendant qu'il s'enfonce, il crie. Mais c'est-à-dire que Jésus n'attend pas que Yann arrive jusqu'à moi. Que Pierre arrive jusqu'à lui. Tu peux aller. Merci. Juste, je voulais juste imaginer cette distance. Pour vous dire quoi? Parfois, il y en a qui disent, mais comment je vais m'approcher de Jésus? C'est tellement difficile et je me pose tellement de questions. Mais j'aimerais te dire la chose suivante. Même si tu t'enfonces, Jésus est là. En fait, cette histoire et cet événement nous montrent quelque chose de fondamental. Nous avons besoin de faire un premier pas. Mais ce n'est pas parce que nous allons faire un premier pas que Dieu attend de nous que nous fassions tous les pas. Mais quand tu fais un premier pas, ce premier pas suffit à Jésus que pour s'approcher de toi, même si tu t'effondres, même si à un moment donné, il y a des doutes. Il y a des personnes qui ont, entre guillemets, commencé à croire. Et tu dis, mais là, je suis comme dans une période de doute. Mais ne t'inquiète pas, Dieu ne te rejette pas. Jésus n'a pas dit, oh Pierre, tu fais n'importe quoi. Non, parce que Jésus a vu le pas de Pierre. Et la Bible nous dit quelque chose de fondamental. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est-à-dire, le pas que Jésus te demande, c'est un pas de foi, un pas pour dire, je sens dans mon esprit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je ne sais pas comment tu vas faire pour me faire sortir de là. Je ne sais pas comment tu vas faire pour que ma vie change. Je ne sais pas comment tu vas faire pour que mon passé qui me dévore jusqu'à aujourd'hui soit réparé, mais parce que je décide de sortir de la barque, même si je m'écroule, du moment que je crie à Jésus, sauve-moi! Amen. Jésus vient! Amen. Et je t'annonce que Jésus vient! Amen. Jésus est près de toi! Amen. Jésus te tend la main! Amen. Même si tu t'écroules, il est là! Il n'est pas celui qui culpabilise. Il n'est pas celui qui t'enfonce. Mais il est celui qui te relève. Ce n'est pas parce que tu sembles perdre pied que tu as perdu sa présence. J'aimerais rassurer même certains chrétiens. Pas parce que tu perds pied, que tu es en train peut-être de perdre pied. Au fait que tu as commencé à regarder les circonstances et tu commences à paniquer. Jésus est là. Jésus est là. Et Jésus va dire quelque chose, c'est mon dernier point. Jésus va dire que je te donne les clés. Je te donnerai les clés du royaume. Souvenez-vous, on parle d'un homme qui était ébranlable, d'un homme qui était inconstant. Et pour ceux qui ont étudié la vie de Pierre, vous savez de quoi je parle. D'un homme colérique, d'un homme instable. Il reconnaît Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la Bible dit, Jésus va lui dire, je te donne maintenant les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sera délié. C'est-à-dire, rapidement, comprenez bien. Quand tu confesses Jésus, Dieu te donne des clés pour ta vie. Je vais le simplifier comme ça. Ces clés dont il parle, et ça va être connecté, bien entendu, comme je disais en introduction, à l'Église. Mais ces clés aussi nous parlent et symbolisent l'autorité. Pour certains, vous avez perdu le contrôle de votre vie. Ce n'est plus vous qui dirigez, ce sont les circonstances. C'est le diable, c'est des choses, et à l'intérieur de vous. Et Paul va exprimer, Paul, c'est un écrivain de la Bible, va dire, « Je fais le mal que je ne veux pas faire, et je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. » Mais quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu te donne les clés, c'est-à-dire, tu as la capacité, la puissance, le pouvoir d'ouvrir les événements qui sont jusqu'à présent scellés, d'ouvrir les portes qui sont jusqu'à présent fermées. Et la Bible nous dit que les portes même de l'enfer ne peuvent pas résister. Les portes sont des éléments qui ne bougent pas. Jamais la porte se déplace vers moi. Mais la Bible dit que quand je reçois Jésus, c'est l'Église. Tu commences à faire partie, tu fais partie de l'Église qui, lorsqu'elle va se déplacer, ce qui est fermé s'ouvre automatiquement. Ce qui est fermé s'ouvre automatiquement parce que tu reçois les clés. Recevoir Jésus, c'est recevoir la clé pour débloquer les situations bloquées. Sur cette terre, mais aussi dans le futur. Je vais terminer par ça, et ce n'est pas un message qui te fait peur. Pourquoi des événements sont fermés ici? Pour symboliser la porte éternelle qui sera fermée là-haut. Il y a des portes qui sont fermées sur cette terre. Juste, pas parce que Dieu veut te punir. Parce que Dieu permet à ce que des portes soient fermées, quand c'est sa volonté, pour que tu réalises que lorsqu'une porte est fermée, ce que ça fait à l'intérieur de toi. Mais c'est pire pour une porte qui sera fermée définitivement dans l'éternité. La frustration que tu as de la porte fermée ici est l'indice de la porte qui sera fermée de manière éternelle là-haut. C'est pourquoi je veux te donner l'opportunité aujourd'hui même de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas avoir la clé, les clés pour ta destinée, les clés pour ton futur, les clés pour ton mariage, les clés. Dieu, par l'association de l'Église aussi, et de la famille spirituelle, va t'accompagner dans tes défis. Et tu vas voir que d'ébranlable, tu passes à inébranlable. De Pétros, tu passes à Petra. Si tu es convaincu, tu peux acclamer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Je vais redonner l'opportunité à quelqu'un de recevoir Jésus-Christ. Et après, je vais prier spécifiquement pour deux ou trois personnes. Tu m'as parlé sur certaines personnes et je vais le faire. Mais dès maintenant même, là où tu es, ferme les yeux, s'il te plaît. Alléluia, Jésus, Kouramaïs, Tafarama. J'aimerais te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme celui qui va te donner aussi les clés, comme celui qui va transformer ta vie. Si dans ton esprit, je peux avoir du mal à expliquer c'est quoi un esprit, mais toi-même, tu sais de quoi je parle. Si à l'intérieur de toi, tu as eu cette conviction et cette parole au fond de toi qui te dit « Ouais, c'est ça. » Et tu veux recevoir Jésus-Christ. Lève ta main, je vais prier pour toi. Oh, amen, gloire à Dieu. Une main qui s'élève.